Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les Antipodes.
Bonsoir à tous. Vous vous apprêtez à participer à l'épisode final de la première saison du Rendez-vous de l'étrange. Préparez-vous à être emporté par des histoires aux antipodes de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Et laissez-vous guider par votre hôte, Yop, le maître de cérémonie. Il sera entouré pour l'occasion de Xaramoli, la maîtresse du true crime, de Vanille, la maîtresse du creepy et du sordide, d'Indigo, le maître des musiques et du frisson, et de Dan, le maître de l'horreur. Installez-vous confortablement et dites-vous que vous êtes à l'abri, même si vous en doutez fortement. Faites face à vos peurs les plus primitives. Sombrez en ce qu'il y a de pire en l'être humain. Bienvenue dans le Rendez-vous de l'étrange.
Bonsoir Twitch et bonsoir le podcast, je suis Yop et vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange épisode 9, l'épisode final de la première saison. Ça me fait très plaisir de vous voir aussi nombreux dans le chat, surtout que c'est un épisode très spécial car j'ai proposé à la crème de la crème des podcasteurs de l'horreur de se joindre à moi et ils ont accepté. Il y a d'abord la reine du podcast creepy français, elle nous inonde chaque semaine d'histoires réelles, plus gore les unes que les autres, mais en vrai elle est super sympa. J'ai nommé Vanille du podcast C'est Creepy. Coucou Vanille.
Salut! Toutes les semaines, t'as abusé.
Ensuite, il y a un peu mon gars sûr. On a arrêté de compter nos années d'amitié et les marathons qu'on a pu faire ensemble. Si on suivait chacune de ses idées, on serait en train d'animer un podcast qui s'appellerait Stylé mais dangereux. Vous le connaissez grâce à son rire communicatif. Dans Avant d'aller dormir, bien sûr. C'est Indigo.
Oui! Bonsoir, Yop! Et bonsoir à toutes et tous.
Mon prochain invité, vous le reconnaissez entre mille grâce à sa voix sortie d'outre-tombe, que vous avez d'ailleurs pu entendre en intro. Ouvre un Patreon, qu'on lui disait. C'est pas rogner tes principes que de proposer à tes auditeurs de te soutenir. Il l'a fait. C'était la meilleure décision de sa vie. Ce soir, il nous rejoint en direct de Dubaï. C'est Dan, du podcast Creepy Story.
Bonsoir et merci pour cette présentation aux petits oignons.
Oh, c'est magnifique.
Bon, on a quand même une dernière invitée, qui est toujours en retard, mais son accent que tous nos auditeurs surkiffent va avec le décalage horaire qui explique ce retard. Elle est présentement en train de courir dans tout Montréal pour arriver avant la fin du live. Et pour pouvoir nous raconter le sujet qu'elle a préparé, c'est bien sûr Xaramoli, qui va arriver d'ici 30 minutes, je pense.
Bonsoir Xara.
Bonsoir Xara.
En avance.
Et je voudrais quand même vous remercier d'avoir accepté mon invitation au pied levé. Je vous l'ai dit il y a genre une semaine. Je vous ai demandé il y a genre une semaine et vous avez tous accepté. Vous avez pris sur votre temps libre pour préparer chacun un sujet. Et merci, merci beaucoup.
Ah. Fallait préparer un truc.
Ouais, fallait préparer un truc, ouais.
Merci, 5 minutes. Merci le 11 novembre aussi.
Ouais, ouais, ça aide. Ça aide. Est-ce qu'on dit chacun de quoi on va parler? Ouais.
Alors, que personne ne fasse de recherche.
Ouais, ne faites pas de recherche
sur Internet, ouais.
Ah ouais. Ouais.
Allez, au hasard, vas-y, Dan.
Eh bien, moi, je vais faire je vais parler de l'affaire des disparus de Mourmelon.
Ok.
Alors, à part être un mot qui a beaucoup fait rire Yop quand je lui ai proposé cette affaire, c'est une affaire vraiment très très spéciale, assez glauque et où la justice n'a pas été très très fair play, j'ai envie de dire.
Très bien, ok. Vanille.
Je vais parler de la disparition des enfants Sauder.
Très bien. Et toi Indigo?
Moi je vais vous raconter une enquête d'un game designer. Je vais beaucoup utiliser accrochez-vous et c'est toute une époque.
Ok, très bien. Moi, je vais vous parler de l'affaire Godard qui s'est passée en France il y a quelques années, en 99. Je pense qu'elle pourrait pas mal vous plaire, Notamment à toi, Vanny, parce que ça me fait penser pas mal à Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense qu'on va pouvoir y aller, de toute façon.
Allez.
Moi, je vous propose que je commence, tiens. Si ça vous
Allez.
Va. Ça vous
Une
va
Une fois n'est pas C'est coutume. Parti.
Donc, comme je vous l'ai dit en intro, je vais vous parler de la disparition de la famille Godard. Et je vais commencer par vous présenter le père, Yves Godard, 44 ans au moment des faits en 1999. C'est un médecin généraliste spécialisé dans l'acupuncture dans la ville de Caen. Yves est marié avec Marie-France depuis 1994. Elle a 44 ans également. Ils ont deux enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Yves et Marie-France ont tous les deux des enfants des précédentes unions. Yves a deux fils de 15 et 17 ans, dont il n'est pas particulièrement proche. Et Marie-France a un fils de 15 ans et une fille de 16 ans. Ils vivent tous les deux avec leur père, pas très loin, et voient souvent leur mère. Leurs amis indiquent que c'est un couple très soudé et qu'ils ont une relation très fusionnelle. Petit à petit, ils se sont même éloignés de leurs anciens amis pour passer plus de temps ensemble. Ils allaient souvent au théâtre, par exemple. Par contre, Marie-France trouve que Yves travaillait trop, aussi bien dans son cabinet que sur la maison qu'il rénovait. En tant que médecin, Yves était décrit comme étant très attentionné et dévoué, attaché à ses patients. Une fois, il a passé 48 heures au chevet d'un mourant pour le réconforter. Par contre, tout n'était pas rose dans sa pratique médicale. En 1996, sa licence a été suspendue pendant 3 mois pour exercice pharmaceutique illégal. Il était accusé d'avoir soigné des pathologies graves avec un traitement médical d'avant-garde, ainsi que d'avoir prescrit des médicaments interdits en France. Yves s'intéressait de plus en plus à l'hypnose, à la magnétothérapie, à la thérapie spirituelle et même à la réincarnation. Il a essayé de trouver du soutien auprès d'homéopathes et d'acupuncteurs dans sa région, mais son attitude hautaine n'a pas aidé sa cause. Alors il a fini par quitter son cabinet médical qu'il avait créé avec un autre médecin pour s'installer à son compte. Ça n'a pas été une décision facile, car il a dû trouver des nouveaux clients et convaincre les anciens de revenir. Il devait aussi rembourser les dettes de son cabinet précédent et continuer à payer l'emprunt de la maison qu'il avait acheté avec Marie-France. Yves a alors demandé à Marie-France si elle pouvait venir travailler pour lui 3 jours par semaine comme secrétaire, ce qu'elle accepta à contre-cœur. Elle n'avait pas été employée depuis la naissance de Camille pour pouvoir pleinement s'occuper des enfants. Tous ces changements professionnels et les difficultés qui vont avec ont amené Yves Godard à adhérer à la CDCA, la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans. C'est une sorte de syndicat qui défend les droits des dirigeants des petites entreprises et qui est connu pour encourager ouvertement ses membres à pratiquer l'évasion fiscale et à ne pas payer leurs cotisations sociales au gouvernement. Cela convenait bien à Yves, de toute façon il ne les payait pas depuis plus de 3 ans. Dans les réunions locales de la CDCA, Yves Godard était surnommé l'intellectuel. Il était le seul membre de la région, et peut-être même de toute la France, à être médecin. Il était admiré pour son intelligence et avait, entre autres, la capacité de pouvoir résumer une réunion de 4 heures en seulement quelques minutes. À l'époque, en 1999, Yves Godard devait plus de 2 millions de francs, 300 000 euros environ, de taxes et d'impôts. Et tous les deux jours environ, le centre des impôts envoyait un huissier de justice pour rappeler à Yves sa dette. Au point que, alors que d'habitude il est plutôt pacifique et anti-violent, il a mentionné à plusieurs reprises à d'autres membres de la CDCA qu'il faudrait peut-être faire quelque chose à ce propos de son ennemi personnel, l'huissier de justice qui lui rendait visite tous les 48 heures. L'état mental de Marie-France n'était pas non plus au beau fixe. Elle était stressée par les dettes et gravement déprimée. Elle allait voir un sophrologue pour lui parler de ses problèmes et de son mari qui lui prêtait de moins en moins d'attention. Elle tomba amoureuse d'ailleurs du sophrologue qui refusa ses avances. Donc maintenant que le contexte est posé, je vais vous parler de ce qui s'est passé en 1999. Nous sommes le 30 août, une journée classique pour Yves. Il fait ses consultations au cabinet puis rentre chez lui, dans la ville de Pont-de-Juvigny, à 25 minutes en voiture de Caen. Les patients qui sont entrés ce jour-là dans son cabinet ont par la suite déclaré que tout semblait normal, que Yves était professionnel pendant les consultations. Et pourtant, le lendemain, le 31 août, il annule toutes ses consultations et part emmener ses enfants pêcher dans un étang pas trop loin de chez eux. Yves, il adorait ses deux enfants, il était vraiment proche d'eux, très proche d'eux, contrairement à ses plus vieux enfants où il n'avait plus trop de liens. Là, on arrive le 1er septembre. Le lendemain, donc, Yves et ses enfants quittent le domicile familial en voiture vers 8h30 pour effectuer un trajet de 150 km en direction de Saint-Malo. C'est l'une des voisines qui les voit partir, une personne âgée. Yves lui dit qu'ils partent pour quelques jours. La voisine est cependant surprise qu'elle lui laisse pas les clés de la maison pour qu'elle s'occupe de leur chat, comme à leur habitude. Elle note aussi que Marie-France est dans la voiture. Elle se rétractera plus tard, et compte tenu de son âge, en fait, son témoignage n'aura pas beaucoup de crédit. Et un détail important, à savoir à ce moment-là, la veille au soir, Marie-France était au téléphone avec sa fille aînée et elle n'avait fait aucune mention sur le départ vers Saint-Malo. Donc de toute évidence, elle n'était pas au courant. En tout cas, une fois arrivé à Saint-Malo, vers 10h30, il loue un bateau nommé le Nick au club de voile du coup de Saint-Malo. C'est un voilier qui mesure 9 mètres de long et qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Yves dit à l'homme qui lui loue le bateau qu'il prévoit de naviguer avec les enfants vers la ville côtière de Perros-Guirec et qu'il serait de retour le 5 septembre. L'homme a confirmé par la suite que Marie-France n'était pas présente à ce moment-là. Il ne pouvait pas le savoir, mais en fait, Marie-France détestait la voile. Donc, il y avait peu de chances qu'elle soit présente de toute façon. Yves est un marin expérimenté, donc il vérifie soigneusement tout l'équipement de navigation. Et avant d'embarquer, il s'arrête dans un supermarché vers 11h30 pour acheter un stock de sacs poubelles, des produits de nettoyage et 2 bouteilles de whisky. C'est une belle journée de fin d'été, l'eau est calme. On ne sait pas exactement à quelle heure ils ont mis les voiles, mais a priori pas avant 14h, la marée était trop basse pour partir avant. Le lendemain, le 2 septembre donc, Yves et les enfants sont arrêtés à bord du Nick par des douaniers entre le cap Erki et le cap Fréhel pour une vérification de routine sur le bateau. Ils remarquent un petit enfant, enfin un des deux enfants qui dort, mais aussi que le moteur du voilier fonctionne, malgré une bonne quantité de vent ce jour-là. Donc normalement, il n'aurait pas dû y avoir besoin du moteur. Il remarque également ce qui semble être une planche à voile dans sa housse, à l'avant du bateau. L'un des douaniers a alors un mauvais pressentiment à propos d'Yves Godard. Alors il décide de contacter le propriétaire du bateau, donc de Saint-Malo, pour vérifier son histoire. Comme c'était à prévoir, le propriétaire du bateau corrobore les propos. Et le douanier n'a d'autre choix que de ne pas écouter son instinct et de les laisser partir. Les jours d'après sont assez flous. On a des témoins qui ont vu le bateau dans la région entre le 2 et le 5 septembre. On a également une femme qui dirige un stand de glace et de crêpes qui se souvient avoir servi Yves et ses enfants le 3 septembre. Le 4 septembre, plusieurs randonneurs remarquent que le Nick semble abandonné dans l'eau au large de la côte de Plouézec. Le 5 septembre, le jour où Yves et les enfants auraient dû rendre le voilier à Saint-Malo, un canot gonflable appartenant au Nick est trouvé par un bateau de pêche à environ 55 km de l'île de Batz. À l'intérieur du canot pneumatique se trouve une veste de pluie et un chéquier appartenant à Yves Godard. Beaucoup de gens ont spéculé à l'époque et pensaient que les objets avaient été placés afin de faire croire à un naufrage. Les gardes-côtes sont immédiatement informés et craignent que quelque chose de terrible ne se soit produit. Ils partent donc à la recherche du voilier. Aucun appel ni SOS n'a été passé depuis la radio du Nick, qui ne répond d'ailleurs pas aux appels de ses gardes-côtes. Le 7 septembre, le voilier n'est toujours pas rentré. Ceux qui travaillent sur l'affaire commencent à penser que quelque chose de grave est probablement arrivé à la famille Godard, mais ne pensent pas immédiatement à autre chose qu'un accident de bateau. Ils envoient un avion de l'armée au-dessus des côtes bretonnes dans l'espoir de repérer le voilier, mais en vain. Le même jour, la police de Saint-Malo inspecte le van laissé sur le parking du port. À l'intérieur, ils trouvent de fortes doses de morphine et une grande quantité de sang. Le 8 septembre, après avoir obtenu un mandat, ils se rendent au domicile des Godard à Pont-de-Juvigny. Ils entrent dans les lieux et voient une note sur la table de la cuisine écrite de la main d'Yves. « Nous partons quelques jours, nous reviendrons dimanche. » Et c'est signé « Marie et Yves ». Le frigo est rempli, la maison est rangée, les sacs à dos des enfants sont près de la porte. Ils montent alors à l'étage et ils découvrent du sang sur le mur de la chambre parentale que quelqu'un a essayé de nettoyer à la hâte. Ils se dirigent ensuite vers le lit, ils le retournent et trouvent une grande tache de sang qui a pénétré près de la moitié du matelas. Dans la chambre des enfants, rien d'anormal, pas de traces de sang. Ils vont ensuite dans la salle de bain où ils trouvent un gant de toilette imbibé de sang, juste à côté du lavabo plein de sang également. En descendant, ils remarquent des gouttes de sang sur l'escalier. De retour en bas, ils continuent à fouiller et trouvent une couverture avec des traces de sang dans la machine à laver. Ça fait beaucoup de fois le mot « sang », mais il y en a vraiment beaucoup dans la maison, voilà. Le 10 septembre, une enquête pour homicide involontaire est ouverte et un mandat d'arrêt international contre Yves Godard est rendu public. Le 16 septembre, les échantillons de sang prélevés dans la voiture et dans la maison sont identifiés comme étant ceux de Marie-France Godard, que personne n'avait de toute façon plus revu depuis le 31 août. Donc voilà, vous avez des théories pour le moment ou pas ?
C'est une affaire de sous, je pense que c'est... ça serait plus des dettes en veux-tu en voilà. Et, je pense que ça serait plus ça, ouais. Ça serait plus des dettes ou... Mais en arrivant à ce point-là, enfin, si c'est par rapport à ça, en arrivant à ce point-là, c'est quand même catastrophique. Mais en tout cas, dans toute bonne histoire de, justement, de, un peu de ce genre-là, il y a toujours une petite camionnette.
Toujours une camionnette, là, c'est un van, effectivement. Ouais.
Une petite camionnette, ouais. Bah pour pouvoir transporter un maximum de choses à la verticale, je pense. Parce que...
Genre des tapis avec des gens dedans.
C'est ça.
À tout hasard.
Ok, et ben on est parti, on reprend. Alors les investigations commencent. Ils inspectent d'abord l'emploi du temps d'Yves Godard. Il avait continué à prendre des rendez-vous médicaux pour ses patients les 1er, 2 et 3 septembre, malgré le fait qu'il avait loué son bateau le 17 août pour les dates du 1er au 5 septembre. Donc les enquêteurs, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il a loué le bateau pour ces dates, mais il a quand même accepté des rendez-vous. Encore plus étrange, ils découvrent ensuite que les patients sont soit des patients existants qui n'avaient jamais pris de rendez-vous, ou alors soit des noms complètement inventés. Autrement dit, Yves avait falsifié tout son emploi du temps de début septembre. Les rendez-vous étaient écrits de sa main, donc ils savent que c'était pas Marie-France qui avait fait les inscriptions. Le 16 septembre, des personnes en bateau trouvent un gilet de sauvetage au large de Guernesey. C'est une île qui, malgré qu'elle soit plus proche des côtes françaises, appartient au Royaume-Uni. Il a été confirmé que le gilet de sauvetage provenait du Nick. Une semaine plus tard, le 23 septembre, un radeau de survie à moitié dégonflé, toujours venant du Nick, est retrouvé dans la baie de Lyme, dans le comté de Dorset, en Angleterre. Les enquêteurs sont déconcertés. À ce stade, ils sont relativement certains qu'Yves a tué sa femme et s'est enfui avec ses enfants. Cependant, les éléments, comme par exemple le gilet de sauvetage, le radeau, enfin tout ça, ça les laisse perplexes. Selon les experts scientifiques, compte tenu des courants océaniques, aucun de ces objets n'aurait pu dériver vers les endroits où ils ont été trouvés. De plus, le dispositif utilisé pour maintenir le radeau gonflé avait été arraché, et le radeau, il ne pouvait pas rester gonflé plus de 72 heures sans cet appareil. Donc si on paraphrase, en gros, ça sent la mise en scène. Le 14 octobre, un hôtelier sur l'île de Man, qui se situe dans la mer d'Irlande à plus de 900 km de la côte bretonne, se manifeste et se dit absolument convaincu qu'Yves Godard et ses enfants ont séjourné à son hôtel du 7 au 14 septembre. Pour appuyer cette piste, le 2 octobre, la police de la ville de Falaise, en Normandie, reçoit une lettre anonyme indiquant qu'Yves Godard et ses enfants sont sur l'île de Man. La lettre est rédigée clairement et comporte seulement deux phrases. Le docteur Godard est vivant et vit en mer d'Irlande, sur l'île de Man. Prenez cela au sérieux. D'autres témoins sur l'île de Man ont déclaré avoir vu le trio également, et que la petite fille était blonde, comme Camille, et demandait sa mère. Autre chose intéressante sur cette île, c'est qu'elle est connue pour être un paradis fiscal, et que Yves Godard possédait un compte bancaire là-bas.
Comme par hasard.
Comme par hasard. Une deuxième lettre est envoyée le 8 octobre et indique aux enquêteurs que le trio se trouve maintenant sur l'île de Lewis, au large des côtes écossaises, et qu'il faut, je cite, « sauver Camille et Marius ». Les enquêteurs se rendent alors sur cette île et se heurtent à l'hostilité des autorités locales. Ils réussissent quand même à parler à un guichetier de la garde maritime qui déclare, d'une manière très convaincante, avoir vu Yves et les enfants début octobre. L'auteur de la lettre ne s'est jamais manifesté, mais les experts en écriture ont déterminé qu'il s'agissait de l'écriture d'une femme dans la soixantaine, probablement proche d'Yves Godard. La police a réuni un certain nombre de femmes, environ 300, qui connaissaient Yves Godard. Ils ont testé leur écriture, mais pas de résultats probants. Alors ils ont effectué des tests ADN sur ces mêmes femmes, parce que le timbre sur les lettres avait été léché, mais pas de concordance non plus. Même si la piste des îles de Man et de Lewis semble assez intéressante, à ce moment-là, on ne sait réellement pas où sont Yves et ses enfants, ni même si Marie-France est encore vivante. Après, vu tout le sang qu'on a retrouvé, je suis pas sûr qu'elle le soit encore, quoi. Le 16 janvier 2000, 4 mois après la disparition de la famille, un bateau de pêche, au large de l'île de Batz, attrape dans son filet un gros sac en toile. À l'intérieur, des affaires de toute la famille. Des vêtements d'enfants, un bikini, des chéquiers, le permis de conduire d'Yves, le sac à main de Marie-France et tout son contenu, des jumelles et un marteau. En mai 2000, des enquêteurs se rendent sur l'île portugaise de Madère, parce que Yves Godard y possédait aussi un compte bancaire. Bon, je vous rappelle que Yves il est assez branché évasion fiscale. Cette piste n'aboutit à rien car le compte bancaire n'avait pas été touché depuis sa disparition. Le 6 juin 2000, donc 10 mois après la disparition, un bateau de pêche à pied au large de la baie de Saint-Brieuc remonte un fragment de crâne dans ses filets, puis un crâne humain entier. Les tests ADN concluent qu'il s'agit du crâne de Camille Godard, 6 ans. L'analyse scientifique a conclu qu'il s'y trouvait depuis février 2000. Camille est décédée, malheureusement. Cette découverte donne du crédit à l'hypothèse d'un naufrage, qu'il soit accidentel ou non, où tout le monde à bord aurait péri. Cette zone, d'ailleurs qui était la même zone où les douaniers avaient arrêté la famille Godard le 2 septembre, elle a été minutieusement passée au peigne fin avec un sonar, mais ils n'ont rien trouvé de plus. Aucun autre ossement n'a été retrouvé, pas plus que le voilier. Donc à ce stade, la seule chose qu'on sait, c'est que Camille est décédée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 1er février 2001, sur l'île des Ébihances, au large des côtes bretonnes, un promeneur trouve la carte professionnelle de médecin d'Yves Godard. Le 22 février, une carte de crédit lui appartenant est retrouvée sur cette même plage. Le 24 mai, c'est encore une autre carte bleue. Un juge ordonne aux enquêteurs de parcourir la plage et les marines utilisent à nouveau le sonar pour vérifier les fonds marins aux alentours, mais rien de plus. Le 3 juin, cependant, une autre carte de crédit est retrouvée par un plongeur le long du rivage. Je ne sais pas combien de cartes de crédit il avait, mais il en avait pas mal a priori. Les enquêteurs sont convaincus qu'Yves Godard a dû s'arrêter sur cette plage et vider le contenu de son portefeuille. La plage est une fois de plus ratissée et les enquêteurs sont certains qu'il n'y a rien d'autre. Cependant, le 31 juillet, une quatrième carte est retrouvée sur la même plage. Cette fois, une carte d'assurance maladie. Toutes les cartes sont envoyées à un laboratoire et les résultats sont étonnants. Les cartes n'ont pas passé beaucoup de temps dans l'eau. Ce n'est pas possible qu'elles y aient été immergées depuis septembre 1999. Ce qui laisse penser que quelqu'un les aurait déposées une par une au cours de l'année 2001. Les enquêteurs, ainsi qu'un avocat de la famille de Marie-France, pensent qu'un complice travaille avec Yves, voulant faire croire à une mort accidentelle. Le 13 septembre 2006, un fémur et un tibia sont découverts dans la fosse du Casquet à 120 km au nord de la ville bretonne de Roscoff. Et, attention, ils appartiennent à Yves Godard. Il est mort. L'équipement sonar est à nouveau envoyé dans la zone. Toujours rien. Aucun autre ossement n'est trouvé. Et c'est pareil pour le voilier, il est toujours introuvable. Donc, ça confirme le décès d'Yves Godard, mais Marie-France et Marius n'ont jamais été retrouvés. Le 19 janvier 2007, le maire de Lingèvre, en Normandie, reçoit une lettre anonyme avec un plan très détaillé du cimetière de son village. La note manuscrite laisse supposer que la dépouille de Marie-France pourrait se trouver à un endroit précis du cimetière. Les autorités prennent la lettre au sérieux, d'autant plus que le cimetière n'est qu'à 3 km de la maison des Godard. Ils creusent et trouvent des ossements, ce qui pourrait sembler évident parce qu'on est dans un cimetière, sauf qu'il n'y aurait pas dû y en avoir, en fait, dans cette partie-là du cimetière. Dans tous les cas, les ossements ont été testés, mais ils n'appartiennent pas à Marie-France. L'auteur de la lettre finit par se manifester, furieux que les médias disent que c'est un corbeau. Donc selon lui, il avait seulement voulu être utile. Il était allé à la police avec des informations que lui seul pouvait connaître sur le contenu de la lettre pour prouver que c'était bien lui qui l'avait écrite. Il a dit qu'il avait essayé de contacter le maire en personne, mais qu'il n'avait jamais voulu le recevoir. Il indique avoir utilisé un pendule sur la photo de Marie-France et un plan qui l'a conduit à la maison des Godard, puis au cimetière. Le 14 décembre 2008, une autre carte de crédit appartenant à Yves Godard est retrouvée en parfait état, toujours sur la même plage où les anciennes cartes avaient été retrouvées. On doit être au moins à la 10e carte, mais bon, avec tous les comptes qu'il avait, ça m'étonne qu'à moitié. Le 4 septembre 2012, l'affaire est abandonnée et un non-lieu est prononcé par le juge. Le tribunal déclare que ce n'est effectivement pas une simple disparition lors d'une excursion en bateau et que l'explication la plus probable serait qu'Yves Godard aurait tué sa famille. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont aucune preuve qui prouve cette allégation. L'affaire a donc été classée, faute de pouvoir inculper quiconque d'un crime. Le 7 septembre 2015, la justice déclare officiellement Marie-France et Marius décédés. Aucun autre ossement appartenant à Yves ou Camille n'a été retrouvé. Le 31 janvier 2018, un petit crâne est retrouvé sur une plage en Bretagne. Beaucoup de gens pensent immédiatement que ça pourrait être le crâne de Marius, mais les tests ADN ne sont pas positifs. On sait que c'était celui d'une femme, mais on ne sait pas qui exactement. Encore un autre mystère. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la famille Godard? Est-ce que Yves a tué sa femme? Où est le corps dans ce cas-là? Est-ce qu'ensuite il est parti en mer avec les enfants en mission suicide? Ou alors est-ce qu'ils ont tout simplement eu un accident? Toutes ces cartes bleues qui n'arrêtaient pas d'apparaître sur la même plage, est-ce qu'il avait un complice? Où est-ce que se trouve le voilier qui n'a toujours pas été retrouvé? Et j'ai une petite dernière information concernant la CDCA dont j'avais parlé au tout début, là, l'organisation dont Yves faisait partie. Le 29 janvier 2001, donc on est à peu près dans la même période, Christian Pousset, président de l'organisation, a été assassiné par deux hommes masqués. Le meurtre n'a jamais été résolu. Quelques mois avant la mort de Christian Pousset, un autre directeur de la CDCA, Philippe Wagoner, est mort dans un accident d'avion dans des circonstances suspectes. Est-ce que la CDCA ou des ennemis de l'organisation pourraient également être impliqués dans cette affaire? C'est possible aussi. Donc voilà, je pose ça là, plein de questions dont on n'a pas de réponse. On est dans un rendez-vous de l'étrange. Voilà, vous en pensez quoi? Je vais lire un petit peu le chat pendant que vous discutez.
C'est incroyable.
Et est-ce qu'on a pensé à la piste des pirates?
Il n'y a pas trop de pirates dans ces eaux-là, il me semble.
Ouais, mais ça peut être des gens qui les ont suivis en bateau, pour, sachant que lui, il est médecin. Que,
oui.
Ah oui.
On peut se dire, il y a de l'argent.
Identifié comme une famille fortunée. Ouais.
Ouais, alors, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu un abordage à un moment donné et qu'ils aient eu des problèmes. Et je pense justement c'est lié au fait que il devait sûrement de l'argent à des gens. Mm. Ça m'étonnerait pas des gens placés, enfin des gens qui ont du pouvoir quoi. Sachant que officiellement en fait la famille avait plus de thunes. Sauf que il était en mode full évasion fiscale et il avait plein de comptes avec plein d'argent quoi.
Oui, parce que retrouver un sac avec des affaires dedans et puis c'est quand même. Même si le bateau avait coulé ou quoi que ce soit, en général, dans les bateaux, il y a toujours les balises Argos. Je pense que quelqu'un qui a un bateau aussi grand va quand même l'assurer, va quand même faire en sorte de pouvoir le retrouver si jamais on le vole. Mm. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas justement un truc comme ça? Peut-être que le bateau est encore en train de voguer ou quelqu'un l'a récupéré dans une marina.
Est-ce qu'il y avait déjà ce genre de balises en 2000
Ah ben, je crois que ça existe depuis super longtemps. Ouais. Ça, c'est... Enfin, je pense hein, quand même.
Ah, il y a Robière qui dit dans le chat que moi je pense qu'il s'est amputé d'une jambe pour se faire passer pour dead.
Ça peut être
c'est jouable. Hein.
Ouais.
Ça peut carrément. Moi j'ai pensé aussi et je me disais mais effectivement il y a que ça qui prouverait sa mort quoi.
Vaut mieux ça qu'un bras tu vois.
Ouais.
Genre t'es en cavale tu vois.
Et par contre être en cavale avec une seule jambe c'est chaud.
La médecine en 2000 tu vois ça va bien déjà. Quoi. Mm.
Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé le crâne de l'enfant? C'est ça qui...
Elle était en cavale, elle a décidé de retirer sa tête. Bon, après, c'est un enfant, alors, je vais te dire.
Ok, bah c'est bon. Je n'ai plus de questions, alors.
Objection.
Ça, c'est pourquoi est-ce que lui se serait coupé une jambe et pourquoi est-ce que l'enfant retrouve le crâne de sa tête, quoi.
Moi, je pense pas, en fait, qu'il voulait s'en prendre aux enfants. Je pense qu'il voulait vraiment partir avec les enfants. Je pense qu'il voulait... Il voulait sûrement partir parce qu'il avait des problèmes.
Oui.
Sa femme voulait pas, je pense. Du coup, il l'a tué. Ça, c'est ma théorie. Hein. Après, on en discute. Hein. Il l'a tué.
Mais on la retrouve pas.
On la retrouve pas parce que bah voilà, il a dû s'en débarrasser quelque part. Il est parti avec les enfants et je pense qu'ils ont eu des problèmes parce que ils étaient recherchés. Pour moi, c'est ma théorie. Il y a Elena Sgul dans le chat qui dit ça sent quand même la mise en scène du mari. La fille est morte accidentellement, donc il l'a balancée et après il s'est coupé une jambe. C'est QFD. Émoji de chien.
Ouais, quand même. Hein. L'histoire de... Enfin, les taches de sang partout, tu sais, dans la maison, ça peut sous-entendre éventuellement que c'était pas prémédité, tu vois. Mm. Peut-être qu'au bout d'un moment, il pète un plomb, il se dit, on se casse, en fait, j'ai aucune voie de sortie, la seule chose, c'est de se barrer et de changer de vie, quoi. Et si, à prise de tête, tu vois, je sais pas, ça peut aller vite, tu vois. Enfin, ça nous arrive à tous, quoi.
Alors, non, mais... Attends, il y avait quand même un peu de préméditation. Je pense qu'il voulait vraiment partir en voilier, parce qu'il l'avait...
Oui, ça, oui.
Il l'avait loué en mi-août.
Ouais. Mais pas pour le meurtre, en fait, quoi.
Mais je pense qu'il voulait vraiment partir avec toute sa famille.
Ouais. Non, c'est plus pour la partie meurtre que je disais.
Ouais, c'était un couple assez soudé, a priori, quand même.
Il y a quelqu'un qui a dit, c'est la femme qui a fait le coup et maquillé ses crimes.
Dans ce cas, elle aurait quand même perdu beaucoup de sang. Mm. Mais ouais. Bon, après, tout est possible, mais...
Elle avait des transfusions... Non, comment on appelle ça?
Sang, là. Ouais, une transfusion. Quoi.
Elle en avait dans le frigo, vu qu'il était...
Une perfusion, peut-être, plutôt.
Ouais, ouais voilà.
Ouais.
Dans tous les cas, elle aurait buté son fils. Ou sa fille, pardon.
Wow.
On reste toujours sur ça. Moi, ce qui me choque, entre guillemets, c'est d'avoir retrouvé un crâne d'enfant. Quel père ou mère peut faire ça, quoi.
L'abordage, c'était une bonne idée.
Ouais, carrément. Moi, je pense pas qu'il y ait eu un infanticide...
C'était pas volontaire, ou alors il y a eu un accident, ou alors... Parce que, imaginons même de retrouver des cartes au fur et à mesure, est-ce que c'est pas des gars qui ont pris le portefeuille, utiliser les cartes, elles fonctionnent pas, on la jette, et peut-être pas le faire constamment, tout le temps, jour après jour, parce que sinon, je pense qu'il se serait grillé tout seul. Mais d'utiliser une carte, de la jeter, d'attendre quelques mois, d'utiliser une deuxième carte, de la jeter, d'où le... Parce que c'est vrai que du plastique dans de l'eau de mer, ça reste pas très longtemps. Je pense que les cartes auraient été un peu rongées.
Par les tortues.
Aussi.
Il y a Oronouille qui dit qu'il y a des femmes tueuses et c'est souvent sur leurs enfants. Ouais,
C'est... Ah mais là, on parle pas de côté psychologique, on parle vraiment de quelque chose de...
Ouais.
On parle d'argent, on parle de fraude fiscale, enfin, pas de... Oui, enfin bref, de qui a rapport vraiment avec de l'argent, avec des gens qui s'enfuient parce qu'ils doivent énormément d'argent à l'État, et peut-être, comme tu as dit, qu'ils devaient de l'argent à quelqu'un, à une tierce personne, dont ils avaient peur, donc ils ont tous essayé de s'enfuir. C'est pour ça, c'est pas mental, hein.
Le film Gone Girl, la meuf se fait des perfs pour accuser son mari. Non mais c'est vrai que là par contre, il y avait quand même énormément de sang dans la maison, et quand on voit que la moitié du matelas est imbibé de sang, du sang de la femme, ça m'étonnerait qu'elle en soit sortie vivante, quoi.
Elle avait peut-être ses règles.
Après moi je connais pas trop Vanille, explique-nous. Mais...
Oui, il y a certains flux qui sont plus abondants que d'autres, mais maintenant on n'a pas la quantité, hein, donc on peut pas savoir...
Oh, et est-ce que Xara nous a rejoint ou pas?
Oui.
Je sais pas.
Oui,
ah,
oui.
Si. Ah, oui, je suis là.
Comment ça va, Xara?
Ça va très bien. J'y suis arrivée.
Ok, eh ben c'est nickel. Trop cool que tu sois là. On était sur une affaire. Bah, on vient de terminer, je crois, à peu près. Hein. On n'est pas trop mal, je pense. On a à peu près tout dit. Qui veut passer en deuxième? Il y a Vanny qui se cache. Pourtant, deuxième, c'est un peu la meilleure place, je trouve. Mais,
ouais, vas-y, je me lance.
Ah.
Je suis chaud.
Ah, j'allais y aller.
Ouais, vas-y, fais le coup du j'allais y aller.
Non, je laisse. Non, allez-y, je vous en prie.
Non, vraiment, vraiment.
Non, je n'en ferai rien, franchement. Je...
Oh, non, mais je vous prie.
Excusez-moi, là. En plus, j'ai un peu mal à la tête, là, je suis... Allez-y, je vous en prie.
Pour ce rendez-vous de l'étrange endgame, accrochez-vous. Mais alors, accrochez-vous bien. Cette histoire rend fou, et j'espère qu'elle vous rendra fou aussi, parce qu'elle intrigue, elle bouleverse, elle questionne, mais surtout parce que cette histoire est vraie. Je vais vous parler d'une enquête invraisemblable menée par Eric Viano. Quand Eric a fait son enquête entre 2014 et 2019, il pensait tenir un scénario de film ou de livre, enfin il pensait en faire quelque chose. Finalement, et comme pour beaucoup de gens, le Covid est passé par là, et Eric décide de publier son enquête sous forme d'une cinquantaine de newsletters très complètes et très détaillées, publiées entre janvier et juillet 2021. C'est donc très récent. L'enquête n'est pas terminée, et vous verrez qu'elle nous laisse avec des réponses, mais encore beaucoup, beaucoup de questions. Mais alors, qui est Eric Viano? Quelqu'un le connaît?
Non, c'est qui? Dis-nous.
Moi non plus. Allez, next. Eric est game designer. Il travaille dans le jeu vidéo et il intervient pour imaginer des mondes, des lieux, des cartes. Il a aussi publié des livres en tant qu'auteur. Et en faisant des recherches pour, je cite, « trouver l'inspiration et enrichir ses créations », il tombe un jour sur un livre, « L'Atlas des îles abandonnées », publié en 2009. Dans ce livre, il va faire une découverte incroyable, la vie de Marc Liblin. Mais alors, qui est Marc Liblin? Il y en a qui le connaissent.
Ah bah pour sûr.
Non.
Alors c'est là où tout bascule, hein, clairement. Marc a grandi dans un petit village des Vosges dans les années 50, à Luxeuil. Sa famille a fait fortune dans l'industrie, et à l'époque, l'entreprise se passe de père en fils. Il déménage donc pour lancer lui aussi son usine, mais celle-ci fait faillite, la crise de l'industrie est passée par là. Et Marc a de toute façon d'autres projets. Depuis toujours, Marc se sent en marge de la société. Il est rêveur, explorateur, bien que timide et réservé. Mais il est conscient qu'un destin plus grand l'attend quelque part. Ce qui fait penser cela à Marc, c'est que depuis l'âge de 6 ans, il rêve la nuit. Alors, vous me direz, tout le monde rêve la nuit, on n'est pas si différent.
Mm-hmm.
Well, les rêves de Marc ont la particularité d'être légèrement différents. La nuit, lorsqu'il rêve, un vieux monsieur lui enseigne la physique et lui parle dans une langue inconnue. Chaque nuit, chaque putain de nuit. Bon là, on est dans les années 50, donc niveau médecine ou compréhension des enfants, généralement on règle ça à coups d'électrodes ou de gifles, c'est toute une autre époque. Et à force de rêver dans une langue inconnue, Marc Liblin va finalement être capable de parler cette langue couramment, sans la comprendre, ni même savoir si cette langue existe. À 33 ans, Marc a déménagé plusieurs fois. Il vit à Rennes, et son cas intéresse une poignée de chercheurs. Pendant 2 ans, et avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose, les chercheurs vont faire passer des tests à Marc pour essayer de déterminer l'origine de cette langue ou la comprendre. Tout le monde y va de sa petite théorie. On évoque une langue du Tibet, d'autres évoquent l'araméen, ou une langue très ancienne, perdu. Marc est entouré de scientifiques qui ont tous plus ou moins d'implication dans la médecine naturelle ou s'intéressent aux dons de certaines personnes, magnétisme, guérison, etc. Certains seront même radiés de l'ordre des médecins pour leurs écrits. Ils se feront tous un peu discrets à ce sujet par la suite. Ça complique l'enquête d'Eric, mais vous allez voir que ça ne l'a pas arrêté. Parce qu'Eric veut en savoir plus, et plus il creuse, plus l'histoire prend une tournure inattendue. Après 2 ans de recherche infructueuse à Rennes, Marc et ses acolytes, dont un certain docteur Gérard Collin, vont avoir une idée. Sillonner les bars et cafés portuaires de Bretagne pour partir à la rencontre des marins de passage, au cas où quelqu'un aurait entendu cette langue lors d'un voyage en mer. Marc fait des démonstrations de cette langue dans les bars, jusqu'à ce qu'un jour, un barman, ancien de la marine, lui dit avoir entendu cette langue, ou quelque chose qui s'en rapproche, sur une île reculée de Polynésie. L'ancienne épouse d'un militaire parlerait même cette langue et vivrait dans un HLM pas loin d'ici. Bon, Marc a toujours été en marge avec son don incroyable, donc là, comme ça, ils se sont pas vraiment chauds de débarquer chez une inconnue pour lui parler de tout ça. En 1980, après des jours, semaines d'hésitation, Marc rencontre un Tahitien en galère de travail et de logement. Il se dit qu'un Polynésien aidera toujours un Polynésien. C'est le prétexte pour aller sonner à la porte de la mystérieuse femme. Ça vous parle ou pas, maintenant que j'ai donné un peu plus de détails?
Tu m'en avais un petit peu parlé, ouais. Un petit peu parlé.
J'avais découvert ça sur une vidéo sur YouTube de Seb Lafrite. Et du coup, j'ai lu l'enquête complète, c'est incroyable. Et les articles, tout est fou.
Du coup, la langue correspondrait à quoi, précisément?
Personne ne sait, en fait. Personne ne sait, en fait, quelle est cette langue. Ils n'ont jamais réussi à déterminer ce qu'elle est. Même lui, il la parle, en fait, couramment, sans savoir.
Bah, comment ils peuvent savoir? Il y a des racines, il y a des bases?
Bah, à l'époque, en fait, ils avaient très peu de moyens pour déterminer la langue. On est avant les années 80, c'est compliqué en termes de médecine, et ils ont très peu de moyens, en fait. C'est assez secret. Donc, comme je disais, en fait, c'est des médecins qui sont déjà un peu en marge, eux aussi.
Mm.
Et donc, du coup, ils galèrent.
Il y a Antitioche qui demande justement en quelle année ça se passait.
Les recherches se sont passées en 1978. Et 2 ans de recherche infructueuse, en 1980, ils décident de partir à la rencontre de la mystérieuse femme dont le barman a parlé. Alors accrochez-vous, ouais, ça va aller très très vite, et vous allez comprendre l'engouement d'Eric Viennot pour son enquête. Marc racontera plus tard qu'il a sonné, que la dame a ouvert, qu'ils se sont regardés, elle restait immobile et ressemblait à une statue. Il lui a parlé dans la langue de ses rêves, et la statue a répondu dans la langue de Marc.
Donc qu'il avait appris grâce à ses rêves, quoi.
Tout à fait.
Pétoche.
Alors là, clairement, what the fuck. Cette femme, c'est Meritwini Mackay. Elle explique à Marc que la langue qu'il parle est le vieux Rapa, une langue qui disparaît petit à petit, car parlée quasi exclusivement par les anciens de l'île de Rapa-Iti. Mais alors, qu'est-ce que Rapa-Iti? Il y en a qui connaissent.
ne serait-ce pas sur l'île de Pâques?
Alors, on va y venir.
J'ai bon?
Pas tout à fait.
Ah, d'accord. Parce qu'il y a Rapa Nui, Rapa machin.
Ouais, bah justement.
Il y a Rapa fromage aussi.
Rapa-Iti, c'est une petite île du Pacifique, à 1400 km au sud de Tahiti. C'est une île très isolée que l'on confond souvent avec sa grande sœur Rapa Nui, plus connue sous le nom de l'île de Pâques. Rapa-Iti, quand on dit que c'est isolé, c'est peu dire. Une île séparée en deux par une baie, où l'on compte environ 500 habitants répartis sur 2 villages. Pas de plage blanche, pas de cocotiers, et environ 5 degrés en hiver. Niveau tourisme, c'est pas ouf, et pour compléter, un bateau qui passe 5 à 6 fois par an, max. Marc Liblin va échanger énormément avec Meritwini, que tout le monde appelle Méré, et finira par l'épouser et partir s'installer en 1983 avec elle à Rapa-Iti.
Stylé.
J'avais dit que ça irait très vite. Donc si on résume, Marc Liblin rêve depuis ses 6 ans d'une langue inconnue. À 35 ans, par hasard, il rencontre celle qui deviendra sa future femme, qui parle la langue de ses rêves, une langue quasi morte, et partira s'installer avec elle à l'autre bout du monde sur une île perdue.
Waouh.
Bah oui, bien sûr.
C'est complètement dingue. Alors, imaginez-vous dans la tête d'Eric Viennot à ce moment-là. Genre, sur quoi je suis tombé?
Mais on n'est pas sur une légende urbaine, là?
Non. D'où l'introduction où j'explique tout ça. C'est juste dingue. On ajoutera à cela que Marc dira de Méré qu'elle a été importante dans sa quête. Meritwini Mackay porte le nom de famille du dieu principal de l'île de Pâques, Mackay Mackay. tout ça n'a aucun sens, voilà. C'est juste dingue. Bon, là, c'est déjà énorme pour Eric Viano. Plus il enquête, plus tout devient incroyable. Alors, on pourrait se dire que c'est une légende, effectivement. Le problème, c'est qu'Eric va se documenter, genre beaucoup se documenter. Il va trouver des ouvrages, des auteurs, des articles de blog de Tahiti Magazine écrits par Marc Liblin lui-même, et plus il croise les infos, plus tout se recoupe. Tout intéresse Eric Viano, notamment une chose, la quête de Marc. Marc parle de la rencontre avec sa femme et son implication dans sa quête. Il sous-entend être à la recherche d'une porte vers un autre monde inaccessible. Il parle de son départ sur l'île comme un exil, une fuite guidée par une force au-delà de ce qu'on peut imaginer, une sorte de rite particulier. Ça devient chelou, ouvrez vos chakras. Eric trouvera des photos de Marc, des enregistrements sonores. Il apprendra que Marc a notamment eu 4 enfants avec Mary sur l'île et qu'il a passé sa vie à établir des théories sur son île. Il était même surnommé Einstein là-bas. Bref, il y a plein de preuves et Eric veut creuser. Il décide de contacter le docteur Gérard Collin. Après avoir essayé tous les Collins qu'il va trouver, il finira enfin par avoir une réponse du vrai docteur Gérard Collin au téléphone. Il lui apprend beaucoup de choses sur Marc, notamment qu'il l'a vu la dernière fois à Paris, à sa mort, en 1998. Que Marc était une personne hors du commun, et qu'en plus de parler une langue étrangère, il était doué de pouvoirs de voyance et de guérison. Ok. Le docteur Collin dit de Marc qu'il a déjà guéri des animaux, et qu'il voyait des scènes, des événements qui se seraient passés, mais que Marc ne pouvait pas connaître. Le docteur avait alors vérifié la véracité des faits avec des anciens. En contactant les auteurs de plusieurs ouvrages sur Marc Liblin, un des auteurs apprendra à Eric que Méré, sa femme, a rangé toutes les recherches sur l'île dans 6 malles à la mort de Marc. Marc, ce genre de super-héros plein de mystères, donc, ça s'ajoute à la liste. Hein. On n'est pas au bout de nos surprises. Eric va alors se concentrer sur les enfants de Marc. Il va alors écrire à tous les Liblins qu'il va trouver sur Facebook. Donc il a prévu un petit texte en fait pour se présenter, pour dire qu'il fait des recherches sur, sur Marc Liblin. Alors évidemment, il va se prendre forcément pas mal de refus, il va se faire ghoster en fait énormément, jusqu'à obtenir une réponse d'une certaine Marie Liblin qui lui dit qu'elle connaît cette histoire. Elle dit « Mais c'est le cousin de mon père ». Il va également rencontrer une experte de la glossolalie au cours d'une soirée. Alors, la glossolalie, qu'est-ce que c'est ? C'est la glossolalie. C'est le fait de parler une langue inventée. On a tous en tête des histoires de personnes sorties de coma, d'accidents cérébraux, d'amnésie, qui se mettent à parler une autre langue.
Ouais.
Bien souvent, c'est une langue inventée qui ressemble à ce que pourrait donner une langue étrangère pour quelqu'un qui ne la parle pas. Et parfois, c'est vraiment une autre langue. Dans ce cas, on parle de xénoglossie. La capacité à parler une langue étrangère véritable sans en être totalement conscient. Alors, si vous êtes perdu avec tous ces mots contre triple, pensez à Harry Potter qui parle fourche langue. Il sait pas comment, mais il sait. Voilà. L'experte rapporte alors un autre cas bien connu de xénoglossie, celui de Mary Campbell, une écossaise qui parlait aussi une langue étrangère. Après des analyses et le fait qu'on lui dise que c'était l'œuvre de Satan, c'était toute une époque aussi, elle s'était tournée vers Dieu. Marie dira ensuite qu'elle sentait une présence. La langue en question a pu être déterminée, il s'agissait d'une langue des îles Palaos, située aussi dans le Pacifique. Et pour le cas de Marc, la spécialiste ne sait pas. Pire, elle est sceptique. Marie Liblin, de son côté, forte de son nom de famille, qui lui ouvre plus facilement les portes pour ses recherches, retrouve les 2 premiers enfants de Marc qu'il avait eus en France avant de divorcer. Son fils racontera de son père qu'il vivait beaucoup dans ses rêves, qu'il passait beaucoup de temps avec son père à explorer plein de choses dans la nature, mais que sa mère en avait fait un sujet tabou, après le divorce. Accrochez-vous, son deuxième enfant, une fille, confiera à Marie qu'elle aussi parle une langue inconnue dans ses rêves et qu'elle a aussi hérité de dons. Bon, bon, bon. Petite, elle ressentait des drames avant qu'ils ne se produisent, et adulte, elle a pu comprendre le mécanisme et l'apprivoiser. Après la naissance de son premier enfant, elle a pu se sentir en connexion avec la nature, dans un état modifié de conscience, et pouvait entendre une autre langue. Elle s'est renseignée, ce n'est pas du rapa. Elle parle cette langue aussi sans la comprendre, même si à force, elle comprend certaines intonations. En avril 2022, très récemment, les 2 enfants sont rendus sur l'île de Rapaïti, mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Revenons maintenant sur la quête de Marc Liblin. Jusqu'ici, là, vous êtes hypé ou pas là?
Ah bah, on est hypé de ouf, là. Enfin, moi, à mon côté, ouais.
C'est assez hallucinant.
C'est dingue, c'est dingue.
On dirait une histoire de Marc Lévy.
Ah ouais, ouais. C'est Marc Liblin, du coup.
J'ai du mal à croire que ce soit vrai, tu vois. Je suis trop terre à terre, en fait.
Justement. Donc, revenons maintenant sur la quête de Marc Liblin. Au cours de ses recherches, Éric Viennot découvre que Marc est fasciné par les parts. Les parts, c'est une sorte de fort très ancien, en ruines, qui sont disposés partout sur l'île.
C'est aussi de l'eau.
Les parts, P-A-R-E-S. Éric entre alors en contact avec des explorateurs qui sont allés sur l'île au moment où Marc s'y trouvait. Il découvre que Marc cachait certaines choses aux explorateurs et archéologues. Marc aurait trouvé des tablettes, des calendriers et autres objets sacrés. Par « trouver », on verra plus tard que ce n'est pas tout à fait vrai. Dans un enregistrement audio, on entend Marc préciser les informations suivantes. L'exception culturelle ne fait pas partie de ce qu'on dit. C'est pour ça. L'ethnologue qui vient, on joue, on fait le compte vent, mais on ne va pas dire le fond des choses. On ne peut pas le dire. Il n'est pas question. Pour tout le monde, hein. Pour moi, ça a été pareil. Tout ce que j'ai trouvé, je l'ai trouvé à l'arraché. On peut faire référence aussi à une ancienne expédition infructueuse sur cette île, des années avant, où les anciens avaient indiqué clairement qu'il y a des secrets que l'argent des Blancs ne peut pas acheter. Éric découvrira d'ailleurs que tout porte à croire que des objets et trésors de l'île auraient pu être cachés, déplacés avant les premières expéditions pour brouiller les pistes des envahisseurs. Parmi les explorateurs contactés par Éric, l'un d'entre eux explique que Marc voyait des choses. Elle pouvait les décrire, même si elles n'existaient plus. Marc en est sûr. Le problème, c'est que les explorateurs, très rationnels, vérifiaient et ne pouvaient pas le contredire. En fait, si une chose n'est plus là, à l'endroit où elle devrait se trouver, ça va pas être simple de confirmer ou d'infirmer. Ils concluent tous cependant par le fait que Marc ne prouve pas, Marc sait. Éric retrouve alors un ami de Marc, Jérôme. Il est allé sur l'île avec Marc. Jérôme parle alors plus en détail de la quête de Marc. Accrochez-vous une nouvelle fois. Marc essayait de prouver que Rapaïti était le centre du monde, le lieu d'origine de tout, un peu comme Khéops. Bon, forcément, on comprend mieux pourquoi Marc est assez discret sur ses recherches. Clairement, tu prétends qu'une île complètement isolée est au centre du monde, bah tu passes un peu pour un fou, quoi. Si en plus on ajoute les dons de voyance, guérison et la langue inconnue, bref. Jérôme explique ensuite que Marc lui a affirmé une chose en parlant de Khéops. Marc a tenu ce propos. Pour toi, ça va être du délire, mais si tu traverses la Terre en passant par le centre, l'antipode de la grande pyramide tombe pas loin de Rapa, et il y a une pyramide sous la mer à cet emplacement. Marc était persuadé que Rapa était le berceau de l'humanité. Ça fout les frissons à force. Hein.
Ça commence à être lourd, là. Hein.
Alors, à l'époque, ça nécessitait surtout une formule mathématique pour vérifier cela, mais avec les outils de maintenant, en quelques clics sur Google Earth, Éric Viennot vérifie les dires de Marc. Et je suis désolé de vous dire que c'est vrai. Pour la pyramide sous l'eau, on sait pas. Mais pour Rapaïti à l'antipode de la pyramide de Khéops, eh bien, faites donc le test vous-même. Rapaïti est l'île la plus proche de l'antipode de la pyramide de Khéops.
Waouh.
Voilà. Jérôme...
Ça donne mal au crâne quand même. Ah mais
tellement, c'est fou, ça rend dingue. Fallait que je vous la raconte parce que faut que vous partagiez ce désastre. Donc à l'époque, quand il était sur l'île, Jérôme était un jeune étudiant en archéologie, très pragmatique, très cartésien, une approche très scientifique finalement. Et sa rencontre avec Marc va être bouleversante. Cela va lui ouvrir l'esprit sur les possibilités infinies du cerveau et les capacités mystiques de ce lieu perdu dans le Pacifique et isolé du monde. À ce propos, Jérôme expliquera que cela lui a fermé certaines portes à son retour en France, car son analyse semblait biaisée désormais par des choses non tangibles et inexpliquées, ou inexplicables.
Tu m'étonnes.
Jérôme parlera des recherches et dessins de Marc. Il avait symbolisé une petite statue de l'île de Pâques, haute de quelques dizaines de centimètres. Donc a priori, il y aurait une statue sur l'île de Rapaïti également. Marc prétend aussi avoir vu dans ses visions des crânes à deux cornes. Après différentes recherches, on apprend que les anciens de l'île vissaient des pierres sur les crânes des nouveau-nés pour communiquer avec les esprits. C'est toute une époque encore.
Bah, c'est les précurseurs des implants.
Ouais, ouais, clairement. On avance toujours dans le what the fuck. Marc voyait aussi des lumières bleues, comme des esprits qui essaient de communiquer ou de guider. Voilà. Bon là, à ce stade, on est tous d'accord pour dire que c'est le bordel, que Eric Viano a beau essayer de démêler tous les fils de cette histoire, les discours se croisent, se recoupent, personne ne se contredit, et chaque personne rencontrée apporte son lot de mystères supplémentaires. D'ailleurs, un scientifique contacté par Eric lui indiquera être allé sur l'île après la mort de Marc. Il a rencontré Méré, qui lui a donné accès aux 6 malles contenant toutes les recherches de Marc. Dans les documents, il apprendra que, selon Marc, les anciens sont connectés avec la nature spirituelle, comme lui. Il apprend aussi que Marc souhaitait précisément être enterré face contre terre. Cela faisait référence à la disposition des crânes avec 2 cornes que Marc avait vus et qui étaient disposés comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les crânes à 2 cornes, Marc les voyait, et il n'y en avait aucun sur l'île. Ça veut dire que c'était vraiment encore des visions de Marc. Dans les notes, on trouve aussi des références aux lumières bleues. Ce sont des manifestations d'entités qui sont visibles aussi sur d'autres îles et ne sont visibles que par certaines personnes. Donc, tout ça paraît tellement dingue. Bon, Eric se rassure, et je vous rassure aussi, il y a encore des gens qui vivent là-bas. Donc si vous êtes sceptique, libre à vous de vous y rendre pour voir vous-même. Petite anecdote en off, comme je vous le disais au début, l'île de Rapaiti est très isolée et très petite. Un bateau de marchandises passe tous les 2 mois environ, il n'y a pas d'aéroport. Le bateau, c'est le seul moyen d'y aller, et une fois sur place, il faut ensuite l'autorisation du Conseil des Sages de l'île pour y rester. Donc, bon courage à toutes et tous. On arrive à la fin de la première partie de cette longue et palpitante enquête d'Eric Viano. J'avoue, j'ai pas mal raccourci parce que tout ce que je vous ai décrit ce soir, tout cela est détaillé, documents, dessins, photos, preuves à l'appui par des proches de Marc, des scientifiques. Eric Viano a reçu de nombreux dossiers, notamment un dossier scientifique envoyé par le docteur Gérard Collin lui-même, ainsi que des photos des documents présents dans les malles de Marc conservés par Méré. La théorie d'Eric, c'est qu'il pourrait s'agir d'une histoire de réincarnation. Le vieux dans les rêves serait un ancien de l'île qui fait une passation de connaissances à Marc Liblin pour qu'il poursuive cette quête. Si je peux vous donner un conseil après la lecture de l'enquête, ne soyez pas rationnel. Laissez-vous porter. Votre théorie n'a pas besoin d'aspect scientifique pour exister. Une particularité que beaucoup de scientifiques étant allés à Rapaiti partageront, c'est le fait que là-bas, en présence de Marc, il ne faut pas toujours chercher à vérifier. Que dans ce lieu, dans cette atmosphère atypique, et fort des connaissances et visions de Marc, tout semble logique, clair, évident. Eric continue son aventure. Il a échangé avec un grand nombre de personnes, des scientifiques, chercheurs, ethnologues, archéologues, écrivains, historiens. L'aventure ne peut pas en rester là. Eric a pu échanger aussi avec les enfants de Marc, les 4 enfants nés sur l'île. Il a également échangé avec Méré, qui a laissé sous-entendre, et vous l'aurez compris face à tous ces mystères, que Méré ne pourra parler et révéler certaines choses que si Eric vient sur l'île.
Hmm.
Ça rejoint ce que Marc prétendait sur l'enregistrement audio, sur le fait qu'il y a des choses qu'on cache aux gens qui viennent, sauf si on décide de leur dire. Mais on ne dit que sur place, en personne. Voilà, certaines choses peuvent pas être transmises à l'écrit, à distance. Certaines choses doivent être dites en face. Je vous avais parlé tout à l'heure de la première fille de Marc Liblin qu'il avait eu en France avant de divorcer puis rencontrer Méré, celle qui a hérité des dons de son père. Eric Viano, au cours de ses recherches, a rencontré des linguistes et chercheurs possédant une base de données d'enregistrement sonore gigantesque de nombreuses langues et dialectes anciens. Eh bien, cette femme à présent a accepté de tester sa langue inconnue, mais on ne sait pas encore si les tests ont eu lieu. L'enquête est toujours en cours.
Oh.
Voilà.
Ouais, que tu reviennes dans la prochaine saison, alors.
Si, c'est sorti, mais juste, ouais. C'est dingue.
Tu l'inviteras sur le plateau.
C'est compliqué à croire, en fait, tu sais, quand t'es trop terre à terre.
Bah
c'est,
oui.
C'est compliqué à comprendre, en fait. Même juste à comprendre.
Ça n'a pas de sens. Rien n'a de sens. Non. Vraiment, ce truc, c'est what the fuck.
Est-ce qu'il utilisait des substances pour justement être dans des trans Rien du tout.
Rien du tout. Rien
mais
du
les
tout.
Preuves auraient pu être fabriquées, en fait.
Possiblement, ouais. Ça, en fait, le truc, c'est que tous les... Alors, ce qu'il y a dans l'enquête, justement, dans les détails que j'ai virés, c'est... Alors, c'est pas pour rendre le truc plus mystique, hein, mais c'est que Marc a passé énormément de temps à lire, à se documenter, déjà quand il était en France. Du moment où il a appris que c'était Rapaiti, quand il a rencontré donc Méré Tuny, il s'est énormément instruit sur cette île. Il a lu énormément d'ouvrages, tout ce qu'il a pu trouver. Ça peut casser un peu le côté mystique des visions, étant donné qu'il a eu accès à pas mal d'histoires, en fait, de bouts d'histoire. Sachant qu'il y a déjà eu des expéditions sur cette île.
Après, il doit pas ne doit pas non plus, plus y avoir 36 000 ouvrages sur, sur une si petite île.
Eh bien, détrompe-toi. En fait, il y en a eu plein.
Ouais.
En fait, il y en a eu plein parce qu'en fait, c'est un coin de, du monde qui intrigue en fait, depuis longtemps. Mm. L'auteur, donc Éric Viennot, là, qui raconte son enquête, au cours de ses newsletters, parfois, il fait des digressions. Et en fait, il lui arrive parfois de faire des liens avec sa vie perso. À tel point qu'il est tellement immergé dans ce truc-là qu'il a lui aussi l'impression d'être mêlé à cette histoire, mais pas pour rien. Par exemple, je vous disais qu'il était, en plus d'être game designer, il était auteur. Il a écrit un livre, il y a longtemps, un livre pour enfants, donc c'était une quête de trésors perdus, quelque chose comme ça, sur une île. Et en fait, l'île de Rapaiti, elle a une particularité, c'est qu'elle ressemble pas aux autres îles. Elle est en forme de croissant de lune, donc il y a une baie au milieu. Mmh. Et donc lui, étant game designer, donc il a déjà l'habitude de dessiner des plans, des choses comme ça, des cartes, il avait dessiné pour son bouquin... Enfin, il avait fait des croquis qu'il avait confiés à un dessinateur. Une île qui ressemble quasiment à Rapaiti. Donc là, il ne peut pas s'empêcher d'y penser. Il y a un petit clin d'œil sympa. C'était une histoire de carte au trésor. Donc, il y a une grotte avec un crâne. Ouais. Et au sommet du crâne, il y a deux cornes. Ça commence à faire beaucoup, bordel.
Ça fait beaucoup, là, non?
Voilà. Et c'est plein de petites choses comme ça. Notamment, dans la carte de navigation qu'il avait inclue dans le livre... Eh bien, l'île en question se trouve pas loin de Rapaiti. Donc, il avait tracé des points en fait de navigation. Donc, on voit une map monde en fait avec des points d'arrêt du bateau de pirate, quoi. Et l'histoire s'achève sur la fameuse île perdue qui okay. se trouve non loin de Rapaiti. La raison pour laquelle il avait choisi cette île, c'était parce qu'en fait, elle est proche de l'île de Lincoln, qui était une île choisie par Jules Verne dans 20 milieux sous les mers. Et donc, en fait, il est très fan, mais connaissant Jules Verne, il en est à se demander si il n'était pas au courant d'un truc plus mystique qu'il aurait aussi inclus volontairement dans son histoire à lui. Il commence à tout remettre en cause, en fait. Tellement les choses sont liées, même lui, il en arrive à se poser des questions. Le fait qu'il a invité par hasard à une soirée et qu'il rencontre une experte de la glossolalie, c'est plein de hasards, en fait. Ça n'a aucun sens, vraiment.
Est-ce que ce marque a existé pour vrai, en fait ?
Ah oui, il y a des photos, il y a des enregistrements, il y a tout. Hein. Tout
mais surtout qu'il est mort il y a quoi ? Il y a 25 ans maintenant ?
Ah bah il est mort en 98.
Ouais.
Ouais.
Donc il y a sûrement des photos de lui assez récentes, enfin récentes qu'on y a
une trentaine
d'années.
Il est mort en
mai
98.
Ouais.
Comme disait Seb dans sa vidéo, il n'a pas connu le doublé de Zizou. Quoi.
Il n'a pas connu Doudou 4000 non plus.
Non, c'est vrai.
C'est malheureux.
C'est triste pour lui.
Et là, du coup, Eric, il en est où là ? Il continue ses newsletters sur le sujet ou pas ?
Ouais. En fait, il continue. Il prévoit. Donc, pendant des années, les sages de l'île, les anciens, du coup, ont tout fait pour vivre en autarcie, vivre isolé. Ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas Internet sur l'île. Mais en fait, tu peux pas contrer Internet. Internet est plus fort que l'île. Donc, il a pu faire des visios avec certains membres, notamment les enfants de Marc qui vivent sur l'île encore. Il y en a un qui est revenu en France. Donc, en avril 2022, quand les enfants de Marc, de son premier mariage, sont allés sur l'île, à ce moment-là, il y avait un des enfants de Marc qui partait de l'île pour venir vivre en France. Donc, ils se sont croisés, quoi. Mais tout le monde est entré en contact avec tout le monde. Ils sont très proches, ils sont très amis et ils sont liés un peu tous par cette espèce de légende locale qui est... qui fait partie vraiment de toute l'histoire de l'île, quoi.
Bah, c'est assez fou.
Mmh. Ouais.
Mais c'est pas terminé, du coup.
Et c'est pas terminé, ouais, c'est ça qui est fou. Ouais. Mais il a tellement de documents. Bah, en fait, il a des vidéos... Enfin, pas des vidéos, pardon. Il a des photos, il a des dossiers entiers. En fait, Gérard Collin, le docteur de Rennes, lui a envoyé le dossier médical qu'il avait stocké sur Marc. Je vous rappelle, les recherches, elles ont duré 2 ans. Donc autant dire qu'il y a dedans des noms de plein d'autres scientifiques qui ont participé aux expériences. Certains sont morts depuis, mais tous ceux que Éric Viennot peut contacter, il les contacte. Pour vous dire, il a vraiment contacté le moindre nom qu'il a pu trouver dans l'histoire. C'est-à-dire que quand il a lu la première fois l'Atlas des îles abandonnées, où il y avait un petit résumé de la vie de Marc, ce qu'il a initié à cette histoire, il a envoyé une lettre à l'autrice de cet Atlas. Il n'a pas eu de réponse tout de suite, donc il a tout de suite enchaîné sur les recherches sur Internet. Il est tombé sur les articles de Marc Liblin quand il écrivait dans Tahiti Magazine. Et entre-temps, il a reçu la réponse de l'autrice de l'Atlas, qui lui a donné sa source. Il a contacté la source, il a retrouvé le bouquin, il l'a acheté, et la source parlait... sa source s'inspirait aussi elle-même d'une autre source. Donc en fait, il continue de creuser le plus loin possible chaque piste séparément. Et c'est ça qui est hyper bien détaillé dans sa newsletter, c'est complètement dingue. Et c'est perturbant, en fait, de creuser autant sur un sujet qui paraît si mystique, quoi.
C'est rendu une obsession.
Mmh. Ouais, clairement, bah oui.
Mais après, quand tu veux chercher des trucs bizarres, t'arrives toujours à en trouver aussi.
C'est ça, ouais.
Mais ça fait beaucoup, quand même, de « comme par hasard ».
C'est ça, en fait. Disons que Marc était devenu quand même une légende locale à Rapaïti, une île qui est très isolée, où tu rentres pas comme ça, où les gens ne t'ouvrent pas à leurs coutumes, à leurs traditions comme ça. Donc même en étant marié à Méré, ça suffisait pas. Bon, j'ai appris que, par exemple, le père de Méré détestait Marc au départ. Et il s'est toujours méfié, parce qu'il y a un truc où il a peur, en fait, de l'envahisseur, et les anciens avaient déjà mis en place plusieurs fois le fait de détruire ou perdre ou déplacer des preuves historiques de l'histoire de l'île, juste pour être sûr que le secret reste gardé, quoi. Mm. Donc le fait que Marc arrive en disant « j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça », tu peux que le croire, en fait, quoi. Parce que y a pas d'écrit sur ça, quoi.
Il y a Valentine dans le chat qui j'ai l'impression qu'il veut continuer les recherches. Elle te demande le nom de l'affaire.
Tu peux rechercher Eric Viennot et il y a une newsletter de sur Marc Liblin. Donc tu peux chercher Eric Viennot, déjà tu vas trouver sa newsletter. Il y a une cinquantaine de pages. C'est hyper intéressant, hyper détaillé. Et tu peux suivre la chose comme lui le fait, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il avance, quand tu vois des nouveaux noms, c'est une piste à creuser, quoi.
Bah c'est top.
Voilà.
Est-ce que tu l'as fait aujourd'hui, la deuxième partie, ou...
Ah bah non, je l'ai pas. C'est ça le problème.
Oui, c'est encore
ça qui
en
rend fou. C'est que là, on est tous bloqués par les recherches d'Eric Viennot, quoi.
Bah ouais,
si tu veux en savoir plus, faut fouiller de ton côté, mais l'avantage qu'Eric a par rapport à tout le monde, c'est que lui, il est en contact avec tout le monde, pour le coup. Et que c'est un enquêteur reconnu par la famille de Marc Liblin. Donc ça, c'est ce qui change quand même grandement la donne, quoi.
Ouais, puis il est accepté aussi, j'ai l'impression. Enfin...
Il est accepté, ouais. Méré qui lui dit « si tu viens, je te raconte tout », c'est un pas énorme, en fait.
Il va y aller, c'est obligé, de toute façon, à un moment donné.
Il l'a dit qu'il irait, ouais. 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 Il veut y aller avec Marie Liblin, justement, la petite cousine éloignée, je sais pas quoi, là, la petite filleule, non, nièce.
De Marc.
Ouais. C'est un bordel, ouais.
Après, le truc, c'est que s'il y va et qu'il découvre plein de trucs, il pourra pas forcément nous les dire.
Eh ben, c'est ça, en fait. C'est ça tout le problème. Ouais.
Moi, je pense qu'il va rester pris sur l'île. On va lui dire, maintenant qu'on t'a tout dit, tu peux pas quitter.
Il y a un truc de fou aussi, c'est pour montrer la dureté de l'île. Marc, quand il est arrivé sur l'île, il est resté un an en autarcie, caché dans les montagnes, quoi.
Ouais, parce qu'il voulait pas, le voir ou... ouais.
Non, parce qu'il avait pas le droit d'intégrer au départ.
Oui, c'est ça, ouais.
Ah
ouais,
oui.
Ouais,
c'est ça.
Pendant un an, il s'est baladé dans la montagne. Il a fait sa vie, en fait, en totale autarcie. Jusqu'à ce que, bah, finalement, il soit...
Il l'accepte, ouais.
Il est en période d'essai.
Ouais, exactement.
C'est un peu ça, ouais, grave.
Et un an dans la nature sur une île isolée, c'est quand même chaud comme essai, quoi.
et du coup, son langage, toujours rien, il n'y a pas eu de...
Je vais obséder là-dessus, moi aussi, là.
Ah, mais ouais, ça rend fou, hein. J'avais prévenu, hein. Son langage, en fait, il ne le comprenait pas. C'est Méré qui lui a traduit au fur et à mesure... lui le chantait, en fait, plus ou moins. Donc Méré dira qu'il le chantait, en fait, plus ou moins. Mm. Donc, il y avait une histoire de il reproduisait les sons qu'il entendait dans ses rêves. Et en fait, le truc, c'est que elle lui traduisait au fur et à mesure, mais comme je disais, ce langage là c'était le langage parlé par les anciens de l'île, parce qu'en fait ça a évolué, la langue a évolué. Et la seule raison pour laquelle il y a encore des gens qui parlaient l'ancien Rapa, c'est justement parce que l'île est isolée, donc elle a pu bénéficier de cet aspect protection, tu vois, par rapport au monde extérieur, qui fait que la langue n'a pas beaucoup évolué pendant des années, au point que quand Marc la parle, il y a encore des gens en vie sur Terre qui la parlent, quoi.
Ouais, d'accord.
Mais si ça avait été plus tard, peut-être personne n'aurait parlé.
Il n'aurait jamais su, ouais. Mais c'est qu'un concours de circonstances, ça n'a aucun sens. Le fait qu'il croise un barman, qui connaît quelqu'un, qui vit dans un HLM pas loin, et qui parle cette langue, mais enfin, c'est dingue, quoi. et donc, Eric Viennot contacte ces gens-là. Mm. C'est pas, genre, quand je vous dis ça, en fait, c'est pas... Il raconte ce qu'il a lu, en fait. Il est contact, il croise tout. Il croise les données, en fait, sur tout ce qu'il trouve, quoi. C'est ça qui rend fou, en fait.
Petite question d'Antitioche. On sait quel genre de truc il racontait dans cette langue ? Parce que lui, il savait pas ce qu'il disait, mais vu qu'elle lui traduisait...
Pas spécialement. Et après, il était assez discret et méré. Alors, c'est un peu l'image du couple de petits vieux, tu vois, où en fait, lui parlait et Méré approuvait tout derrière en disant oui, et traduisait en même temps. Et genre, du coup, vu qu'il y avait déjà que les anciens qui parlaient cette langue, on saura jamais en fait si...
Ça pourrait être une combine.
Ça pourrait être une combine, ouais, par exemple. Si on est très terre-à-terre, ouais, ça pourrait être une combine, ouais.
Ok.
Ouais, parce que la langue est passée après... Elle a été remplacée justement par tous les événements. Ils ont complètement zappé le fait qu'ils parlent une autre langue. Quoi.
Ouais.
Ce qui, pour moi, je trouve que c'est déjà encore plus étrange que de penser à une île et puis de dire, voilà, il y a ça, il y a ceci, il y a cela.
Ça a l'air que Eric Viano est mort.
Attends, je vais vous envoyer le lien. Il n'est pas mort, Eric Viano. Faut déconner. Ou alors, c'est récent parce qu'il a publié en 2021 toute son enquête.
Il est allé sur l'île et il n'est jamais revenu.
Vous ne faites pas ça.
Je savais.
Non, ça suffit.
Je veux pas. En plus, moi,
on apprend en live que Eric Viano est mort.
Non, je refuse totalement.
Il est mort en juillet. Il est mort en juillet de cette année.
Mais non.
Mais il avait quel âge ? C'est fini, c'est terminé.
Non, je veux pas le savoir.
Indigo, tu seras le nouveau Eric Viano.
Vous déconnez.
C'est à toi de continuer.
C'est un troll de Wikipédia, mais c'est sûr, c'est pas possible.
27 juillet 2022.
Mais c'est horrible. Ah oh, putain, mais c'est terrible.
Ça va, Indigo, quand même ?
Ah mais ça je suis dégoûté. En fait, ça casse tout. Je vous explique. Ça fait 6 mois que la vidéo de Seb est sortie. Ça fait 6 mois que ce truc me hante. Là, tu me dis, on va faire un rendez-vous de l'étrange Endgame. Là, on réunit tous les Avengers. Et je me dis, faut que je parle de ça parce que faut que je passe le virus aux gens, tu vois. Et là, le seul gars qui peut résoudre ses problèmes, il est mort. Et c'est incroyable!
Cette information est essentielle.
T'as pas encore entendu mon histoire et la fin de l'histoire.
Oh non!
Et comme il y a Ruby qui dit dans le chat, c'est ta destinée de poursuivre l'enquête. Hein.
Ah, peut-être. Terrible! C'est terrible ça!
On peut passer la mission.
À Marseille, des suites d'un cancer de l'estomac.
Il avait quel âge?
Il est né en 1960. Ouais, il était pas si vieux que ça. Hein. Ils ont trouvé ses ossements au bord d'une île en Bretagne.
Mais non!
Sa carte bleue aussi.
C'est peut-être une malédiction qui frappe tous ceux qui font des recherches dessus. Hein.
Bah, tu vois, Marc Libin, il est mort à 50 ans, quoi. C'est hyper jeune.
Bah, désolé, Indigo, mais.
Waouh.
Oh, ça mate. Putain, ça casse tellement de choses. Je suis dégoûté. C'est incroyable.
On va pouvoir enfin avoir un what the fuck du rendez-vous de l'étrange.
Mais tellement.
Quand Edgo apprend live que Eric Piano est mort.
Oh mon dieu.
Il n'y aura pas besoin de what the fuck, ce sera dans le rendez-vous de l'étrange, ça. Hein.
Je suis choqué, en fait. Je suis tellement choqué.
Le pauvre.
Et on va pouvoir passer à autre chose ou tu vas réussir à t'en
mettre ? Oui, vas-y.
On compte sur toi pour continuer l'enquête.
Bah oui, clairement.
J'en ai assez dit, là, je crois.
Ben, si vous voulez, moi, j'ai une thématique d'île aussi, donc ça ferait une transition
intéressante.
Ben, très bien, ouais. on enchaîne du coup.
Ouais.
Et bien voilà, c'est la fin de la première partie de l'épisode. J'espère que ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant vous a plu. Comme le live en entier dure plus de 4 heures et qu'il est assez long à monter, je vais pas vous mentir, j'ai décidé de le sortir en plusieurs fois, sinon l'attente aurait été vraiment trop longue. Alors, je vais faire en sorte de sortir la suite très bientôt pour que vous puissiez découvrir les histoires de Xara, de Vanille et de Dan. En tout cas, si vous aimez ce que vous avez entendu, vous pouvez soutenir le podcast sur Patreon. J'ai beaucoup d'ambition pour le rendez-vous. J'aimerais bien qu'à terme, ça devienne un vrai talk show sur Twitch, enregistré en plateau, dans les conditions du direct. En vrai, je pense que c'est possible, mais je pourrais pas y arriver sans vous parce que ça demande beaucoup de moyens. Donc j'espère qu'on réussira à concrétiser ça ensemble. Donc n'hésitez pas, c'est sur patreon.com/rdvétrange. En attendant, je vous invite à me suivre sur twitch.tv/jesuishop. Les lives du vendredi continuent. J'ai aussi repris les goûters tous les lundis à partir de 15h. Bon, bah, je crois que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de l'épisode. Prenez soin de vous.
Thank you. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.